Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 18, le rêve. C'était cela le grand secret, le plan génial de Tom. Revenir en compagnie de ses confrères en piraterie. Juste à temps pour assister à leurs propres funérailles. Le samedi, à la tombée de la nuit, ayant traversé le fleuve sur un tronc d'arbre, ils avaient abordé à 8 ou 10 kilomètres en aval du village. Ils avaient dormi jusqu'à l'aube dans les bois environnants, s'étaient faufilés jusqu'à l'église par de petites rues désertes et, une fois dans la tribune, s'étaient de nouveau laissés aller au sommeil au milieu d'un amas de bancs hors d'usage. Lundi matin, au petit déjeuner, tante Polly et Mary comblèrent Tom de gâteries. La conversation fut exceptionnellement animée. La tante interpella son neveu. Je ne nie pas, Tom, que cela ait été une excellente plaisanterie de laisser les gens se morfondre de chagrin pendant presque toute une semaine. Mais, tout de même, cela n'était pas très gentil de ta part de me faire souffrir de la sorte. Puisqu'il vous a été possible de traverser le fleuve sur un tronc d'arbre pour venir à votre enterrement, tu aurais bien pu venir me faire savoir, d'une façon ou d'une autre, que tu n'étais pas mort et qu'il ne s'agissait que d'une équipée. Oui, cela tu aurais pu le faire, dit Mary. Et tel que je te connais, je crois que tu l'aurais fait si tu y avais pensé. Aurais-tu fait cela ? Interrogea anxieusement tante Polly. Dis-moi, si tu y avais pensé, l'aurais-tu fait ? Ma foi, je n'en sais trop rien. Cela aurait tout gâché. J'aurais espéré que tu m'aimais assez pour cela, dit la tante d'une voix attristée qui impressionna Tom. Cela adoucirait un peu ma peine de savoir que tu y avais pensé, bien que tu ne l'aies pas fait. Ma tante, plaida Mary, il ne faut pas lui en vouloir. Il est comme cela, il ne pense à rien. Cela n'est pas une excuse. Sid y aurait pensé, et il l'aurait fait, lui. Un jour, quand il sera trop tard, Tom, tu verras, tu regretteras de ne pas avoir été plus gentil pour moi, alors que cela t'aurait coûté si peu de peine. Ma tante, vous savez que je vous aime bien, dit Tom. Je le saurais mieux si tes actes étaient en rapport avec tes paroles. Je regrette de ne pas y avoir pensé, dit Tom d'un air contrit. En tout cas, j'ai rêvé de vous. C'est tout de même quelque chose, ça. Quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Les chats rêvent, eux aussi. Mais enfin, c'est mieux que rien. Qu'est-ce que tu as rêvé ? Eh bien, dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai rêvé que vous étiez assise là, près du lit. Sid était assis sur le coffre à bois et Mary était à côté de lui. En effet, c'est comme cela que nous nous installons tous les soirs. Je me plais à reconnaître qu'au moins en cela, tes rêves correspondent à la réalité. Et puis, j'ai rêvé que la mère de Joe Harper était ici. Mais c'est vrai qu'elle y était. Qu'est-ce que tu as encore rêvé ? Beaucoup de choses, mais je ne me rappelle plus très bien. Essaye de te rappeler. Il me semble qu'il y avait du vent. Le vent a soufflé. En effet, Tom, le vent a soufflé quelque chose. Tom se gratta l'oreille comme s'il cherchait. « Ça y est, j'y suis. » Le vent a soufflé la chandelle. « Mon Dieu, mais c'est vrai ? Continue, Tom. » « Et il me semble que vous avez dit, je crois que cette porte... »« Va, continue !»« Attendez, attendez. Oui, vous avez dit, je crois que cette porte est ouverte. » « Aussi vrai que je suis assise dans ce fauteuil, j'ai dit cela, n'est-ce pas, Mary ?»« Et après, Tom ?»« Et puis, il me semble que vous avez envoyé Sid. »« Oui, Tom, oui. Je lui ai fait faire quelque chose. Mais quoi ?»« Vous lui avez fait former la porte. » »«
Ça, c'est extraordinaire. Jamais je n'ai rien entendu de pareil. Qu'on ne vienne plus me dire qu'il n'y a rien dans les rêves. » D'ici une heure, je vais raconter tout cela à Sereny Harper. Elle essayera de s'en tirer en disant que ce sont encore des superstitions. Continue, Tom. Oh, maintenant, c'est très clair en moi. Après, vous avez dit que je n'étais pas un mauvais garçon, mais un espiègle, un étourdi, et que je n'avais pas plus de cervelle que... Je crois que c'était un cheval échappé, quelque chose comme ça. Bonté divine. Continue, Tom. Et alors, vous vous êtes mise à pleurer. Ça, oui. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois. Et alors ?
Alors, Madame Harper a pleuré aussi. Elle a dit que Joe, c'était pareil, et qu'elle regrettait de l'avoir fouetté pour avoir pris une crème qu'elle avait jetée.
Tom, il n'y a pas à dire, les esprits s'en sont mêlés.
C'est prodigieux.
Et alors ?
Alors, si Daddy, il a dit... Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit, fit Sid.
Si, tu as parlé, dit Maui.
Taisez-vous, laissez Tom parler.
Tom, qu'est-ce qu'il a dit, Sid ?
Il a dit, je crois qu'il a dit qu'il espérait que je n'étais pas trop mal où j'étais, mais que si j'avais été plus sage.
Non, mais c'est cela qu'il a dit, mot pour mot.
Et vous l'avez fait taire.
C'est ma foi vrai.
Oh, il devait y avoir.
Il y avait un ange là, sûrement.
Et Madame Harper a raconté que Joe lui avait fait peur en lui faisant partir un pétard sous le nez.
Et vous, vous avez raconté l'histoire de Pierrot et de l'élixir.
Aussi vrai que je suis en vie.
Et puis, il a été question de recherches faites sur le fleuve pour nous retrouver, et puis du service funèbre de dimanche. Et puis, Madame Harper vous a embrassé, elle a pleuré, et elle est partie.
C'est miraculeux. C'est exactement ce qui est arrivé. Aussi vrai que je suis assise sur ce coussin.
Tom, si tu as tout vu, tu ne parlerais pas autrement.
Et alors ?
Alors, je crois que vous avez prié pour moi. C'est en moi, comme si je vous avais vu. Comme si j'avais entendu tout ce que vous disiez. Et puis, vous vous êtes couché. Et j'ai été tellement émue que j'ai pris un morceau d'écorce de sycomore. J'ai écrit dessus, « Nous ne sommes pas morts, nous sommes seulement devenus pirates. » Et je l'ai déposé sur la table près de la chandelle. Et vous aviez l'air si brave dans votre sommeil. Je crois que je me suis penchée sur vous, que je vous ai embrassé.
C'est vrai ça, Tom ? Si tu as fait cela, je te pardonne tout. S'écria tante Polly, qui prit Tom dans ses bras et l'embrassa avec tant d'affection que le petit bougre en fut tout bourrelé de remords.
C'était vraiment très gentil de sa part, même si ce n'était qu'en rêve, murmura Sid comme se parlant à lui-même.
Tais-toi, Sid. Dans un rêve, on agit exactement de la même façon que si on était tout éveillé.
Tiens, Tom, voilà une belle pomme que j'avais mise de côté pour toi, si jamais on te retrouvait. Et maintenant, va à l'école.
Je remercie Dieu, notre Père à tous, Dieu dont l'indulgence et la miséricorde vont à ceux qui croient en lui et qui ont foi en sa parole, de t'avoir rendu à moi, quoique je sois indigne de ses bienfaits, je le sais. Mais s'il n'y avait que ceux qui en sont dignes pour mériter ses bénédictions et recevoir l'aide de sa grâce quand ils en ont besoin, il y aurait bien peu de monde pour supporter allègrement les peines d'ici-bas
et être admis dans son paradis quand l'heure sonnera d'y entrer.
Allez, Sid, Mary, Tom, en route. Il y a déjà longtemps que vous devriez être partis.
Les enfants allèrent à l'école. La tante alla rendre visite à Madame Harper pour essayer de venir à bout de son scepticisme en lui racontant le merveilleux rêve de son neveu. Sid jugea préférable de garder pour lui la réflexion qu'il fit en quittant la maison. Un rêve aussi long que ça, sans qu'il y ait la moindre erreur, ce n'est pas naturel. À l'école, Tom était devenu un héros. Il ne se donnait plus des airs de casseur d'assiettes. Il avait la démarche digne et fière d'un pirate qui sait que tous les yeux sont braqués sur lui. Il n'avait l'air ni de remarquer les regards ni d'entendre les conversations sur son passage, mais en réalité, il buvait du petit lait. Les camarades plus jeunes marchaient sur ses talons, tout fiers d'être vus avec lui. Comme s'ils avaient escorté le tambour major précédant un défilé, ou l'éléphant entrant dans le village à la tête de sa ménagerie. Les garçons de son âge faisaient semblant de ne pas avoir remarqué son absence. En réalité, ils en pâlissaient de jalousie. Ils auraient fait n'importe quoi pour avoir ce teint hâlé, cette peau bronzée par le soleil, et surtout cette célébrité. Tom, lui, n'aurait pour un empire, renoncer ni à l'une ni à l'autre. Toute l'école manifestait pour Tom et pour Joe tant d'admiration. Les regards ne le leur laissaient pas ignorer.
que les deux héros ne tardèrent pas à devenir purement insupportables. Ils ne cessaient de raconter à leur auditoire complaisant des aventures qui n'avaient jamais de fin, renouvelées qu'elles étaient sans cesse par une imagination infatigable. Quand par-dessus le marché, ils tiraient leur pipe de leur poche et se mettaient à fumer, l'enthousiasme était à son comble. Tom décida que désormais, il pouvait se passer de Becky Thatcher. La gloire lui suffisait. Il ne vivrait que pour la gloire. Maintenant que la renommée lui souriait, peut-être Becky voudrait-elle se raccommoder avec lui. Qu'elle essaye. Elle verrait qu'elle ne comptait plus pour lui. Quelques minutes après, elle arriva. Tom fit semblant de ne pas la voir. Il s'en alla vers un groupe de garçons et de filles et commença à pérorer. Avec une exubérance affectée, Becky joua à poursuivre ses camarades, riant très fort quand elle en attrapait une. Et Tom remarqua qu'elle n'en attrapait jamais que quand elle était près de lui, et qu'à ce moment-là, elle ne manquait pas de jeter un coup d'œil dans sa direction pour voir s'il l'avait remarqué. Ce manège ne fit que stimuler sa vanité. Au lieu de l'amadouer, cela le poussa à persévérer dans sa résolution de faire celui qui ne voyait rien. Bientôt, elle cessa de courir et se mit à errer d'un air indécis, en poussant des soupirs et en continuant à jeter vers Tom des regards aussi furtifs qu'éplorés. Elle remarqua que Tom parlait plus particulièrement à Amy Lawrence qu'à aucune autre. Cette constatation la troubla. Elle en éprouva un vif serrement de cœur. L'idée lui vint d'abord de s'en aller, mais malgré elle, elle revint vers le groupe. S'adressant à une petite fille qui était tout à côté de Tom, elle lui dit d'un air faussement enjoué. « Eh bien, Mary Austin, en voilà une vilaine petite fille qui n'est pas venue à l'école du dimanche. Mais si j'y étais, tu ne m'as pas vue ? Ma foi, non. Où étais-tu assise ? Dans la classe de Mademoiselle Peters, c'est toujours là que je vais. » « Mais toi, je t'ai bien vue. »« Pas possible, c'est drôle, alors que je ne t'ai pas aperçue. »« Je voulais te parler du pique-nique. »« Oh, chic! Chez qui ?»« Mais chez nous, maman m'a permis de l'organiser. »« Crois-tu qu'elle m'invitera ?»« Bien sûr, ce pique-nique est pour moi. »« Elle invitera tous ceux que je voudrai. »« Ça, c'est épatant. Mais c'est pour quand ?»« Bientôt, dès qu'on sera en vacances. »« On va bien s'amuser. » « Tu invites tous les camarades ?»« Oui, enfin, tous mes amis, ou ceux qui veulent l'être, » déclara Becky en jetant un regard furtif du côté de Tom. Mais celui-ci racontait par le menu à Amy Lawrence la terrible tempête qui s'était déchaînée sur l'île et lui expliquait avec force détail comment, à un mètre de lui, la foudre avait réduit le gros sycomore en miettes. « Est-ce que je pourrais venir ?» demanda Gracie Miller. « Oui. »« Et moi ?» déclara Sally Rogers. « Oui. »« Et moi ?» demanda Suzy Harper. « Et Joe ?»« Oui. » Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, battant des mains, tout le groupe se fût fait inviter, à l'exception de Tom et d'Amy, qui ne dirent mot. Ensuite, Tom froidement s'éloigna en continuant son passionnant entretien avec Amy. La pauvre Becky sentit ses lèvres trembler. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle voulut cacher son trouble sous une feinte gaieté, en continuant à bavarder. Mais en vérité, tout l'intérêt que ce pique-nique présentait pour elle avait disparu. Dès qu'elle le put, elle s'échappa pour pleurer à son aise dans un coin et panser les blessures faites à son amour-propre. Quand la cloche sonna, elle se leva, l'œil mauvais, donna une chiquenaude à ses nattes et se déclara à elle-même qu'elle savait ce qu'elle allait faire. À la récréation, Tom voulut continuer à faire des frais pour Amy et il l'entraîna dans l'espoir de rencontrer à nouveau Becky et d'attiser encore sa jalousie. Il finit par la trouver, mais son exaltation tomba subitement. Derrière l'école, Becky était sagement assise sur un petit banc et regardait des images en compagnie d'Alfred Temple. Ils étaient si absorbés, leurs têtes se penchaient si près l'une de l'autre, au-dessus du livre, qu'ils ne semblaient pas avoir conscience de ce qui se passait autour d'eux.
Un flot de jalousie coula dans les veines de Tom. Il s'en voulait d'avoir laissé échapper l'offre de réconciliation que Becky lui avait faite et se traitait de tous les noms. Il en aurait pleuré de rage. Amy continuait à bavarder, le cœur en joie, mais Tom avait perdu sa langue. Il n'entendit plus ce qu'elle lui disait, et quand elle s'arrêtait, attendant une réponse, il ne pouvait que balbutier un vague assentiment ou, le plus souvent, répondre à côté de la question. Il revenait machinalement vers le banc derrière l'école pour s'emplir les yeux de ce spectacle qui lui faisait mal, mais auquel il ne pouvait pas s'arracher. Ce qui le rendait furieux, c'est qu'à en juger par ce qu'il voyait, Becky ne semblait pas faire plus attention à lui que s'il n'eût pas existé. En quoi il se trompait? Becky le voyait bel et bien, elle savait qu'elle gagnait la partie et qu'à son tour, il était malheureux comme elle l'avait été. Les papotages d'amis finirent par exaspérer Tom. Il eut beau prétexter qu'il avait à faire ceci ou cela, qu'il avait de nombreuses questions à régler, que le temps pressait, rien n'y faisait. Amy continuait à bavarder et Tom pensait « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'en débarrasser ?» Enfin, il réussit à s'échapper. Ingénument, elle l'assura qu'elle serait à la sortie de l'école. Il l'en détesta davantage. « Si encore elle en avait choisi un autre, » grommelait Tom en grinçant des dents. « N'importe quel autre dans toute la ville, il n'en manque pas. » Mais pas ce petit crevé si fier de ses beaux habits et de ses soi-disant quartiers de noblesse. Ne t'en fais pas, mon bonhomme. Je t'ai flanqué une tripotée dès le premier jour que tu as passé dans ce patelin. Oui, monsieur. Et il ne tient qu'à moi de t'en flanquer une seconde. Ça ne traînera pas. Je finirai bien par te rencontrer un de ces jours. Il se mit à mimer un combat avec un ennemi imaginaire, distribuant des coups de poing et des coups de pied à droite et à gauche. « Tiens, prends ça. Tu ne dis pas encore assez ? Eh bien, prends encore celui-là. » La bataille imaginaire se termina à son entière satisfaction. Il était midi. Le vainqueur rentra chez lui. Il ne pouvait plus supporter les amabilités d'Amy ni affronter à nouveau le spectacle de son propre malheur. Becky recommença à regarder les images avec Alfred. Comme le temps passait et que Tom ne venait pas s'offrir à sa vengeance, cette occupation cessa de présenter le moindre intérêt. L'enjouement de Becky tomba. Elle devint distraite, puis mélancolique. Deux ou trois fois, croyant entendre un pas, elle dressa l'oreille. Mais son espoir fut déçu. La tristesse l'envahit. Elle regretta d'avoir poussé la chose aussi loin. Le pauvre Alfred se rendait compte qu'il perdait du terrain, mais il ne comprenait pas pourquoi, et il continuait à s'exclamer. « Oh, quelle belle image ! Regarde celle-là !» Becky perdit patience. « Tu m'ennuies, j'en ai assez de ces images. » Elle fondit en larmes, se leva et partit. Alfred lui emboîta le pas. Il essaya de la consoler, mais elle lui cria. « Va-t'en, laisse-moi tranquille !» « Je te déteste. » Le pauvre Alfred s'arrêta, se demandant en quoi il avait démérité, car c'était bien Becky qui lui avait demandé de regarder ses images avec elle pendant toute la récréation. Et la voilà qui se sauvait en pleurant. Alfred, vexé, entra dans la salle de classe. Il ne fut pas long à comprendre. Becky s'était servie de lui pour se venger de Tom Sawyer. Alfred était loin d'éprouver beaucoup de sympathie pour Tom. Et il souhaitait trouver dans cette aventure la possibilité de lui faire pièce sans courir trop de risques. Le manuel d'orthographe de Tom lui tomba sous la main. L'occasion était toute trouvée. Il ouvrit le livre à la page de la leçon du jour et renversa l'encrier dessus. À ce moment précis, Becky, derrière lui, le regardait par la fenêtre. Elle fut témoin de cette vilaine action, mais se garda bien de révéler sa présence. Elle se retira dans l'intention d'aller trouver Tom chez lui et de tout lui raconter. Tom lui en saurait gré et ce serait la fin de leur brouille. Cependant, avant d'arriver chez elle, elle changea d'avis. Après tout, elle en voulait à Tom de la manière dont il s'était comporté pendant qu'elle parlait de son pique-nique. il serait fouetté pour avoir abîmé son livre. Eh bien, tant pis. Une fois pour toutes, elle le détestait.